VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est 17h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 22 juin 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, RDC, nouveaux affrontements à l'arme lourde à Beni entre des miliciens et des soldats congolais. En Afrique du Sud, le vote des défiances contre Jacob Zuma se fera-t-il à bulletin secret? La balle est dans le camp de la présidente du Parlement. Un sommet de deux jours sur la solidarité des réfugiés s'est ouvert aujourd'hui à Kampala. L'Ouganda accueille plus d'un million de réfugiés. Ici aux États-Unis, les sénateurs républicains ont dévoilé les grandes lignes de leur projet de loi sur l'assurance santé. Et puis nous retrouverons Yakuba Ouedraogo pour les sports et Eric Maniakiza pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 13 miliciens Maïmaï et 2 soldats ont été tués dans une attaque ce matin à Beni, dans la province du Nord Kivu. Une école où les lycéens passaient le bac a été touchée par une explosion. Le calme est revenu à Beni. Les précisions avec Charlie Kasereka depuis Goma.
L'attaque a été lancée dès 6h du matin sur une position avancée de l'armée congolaise se trouvant à Kalaou, dans la périphérie de la ville de Beni, 15 km au nord-est. Ensuite, ils ont tenté de déborder dans la ville vers les bureaux administratifs et du maire de la ville et de l'auditorat militaire. C'est à ce moment que les forces armées de la RDC les ont coincés en neutralisant une dizaine parmi eux, nous dit le porte-parole de l'armée dans cette région de Beni, l'officier Gilles Ngongo.
Des Maïmaï, leur mode opératoire. Nous avons perdu des vaillants militaires qui ont succombé sur les champs de bataille. Nous avons tué 13 combattants Maïmaï tués, 10 autres blessés et 7 capturés.
Une psychose s'est ensuite installée dans toute la ville alors qu'une école où un groupe de lycéens passait leur examen de fin d'études secondaires, une explosion dont l'origine n'est pas encore déterminée, a fait des blessés parmi ces lycéens selon les préfets de cette école. La situation est redevenue calme dans la ville de Beni. Néanmoins, une organisation de la société civile sur place, s'est dénommé CEPADO, renseigne que la nouvelle coalition rebelle qui organise des attaques ces derniers temps dans cette région de Beni serait dénommée Mouvement National des Révolutions MNR et qu'il s'agirait d'une nouvelle rébellion en perspective et d'une guerre contre les institutions en place, selon cet ONG, et qui utiliserait certains des évadés de la récente évasion de la prison de Beni. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
En Centrafrique, des locaux d'organisations humanitaires ont été pillés à Bria, dans le nord-est, où règne un calme tendu selon l'ONU. Les affrontements entre milices survenus mardi matin ont fait une centaine de morts, selon les autorités locales à Bria et des sources sécuritaires à Bangui. Au Bénin, environ un millier de personnes ont manifesté à Cotonou pour protester contre la mauvaise gouvernance du président Patrice Talon à l'appel d'une coalition de partis d'opposition et de mouvements de la société civile. Hier, le préfet du littoral, Modeste Tolula, avait interdit cette marche, mais le président Talon a lui-même réclamé l'annulation de l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, les syndicats du port de Cotonou, poumon économique du pays, ont entamé une grève de 2 jours contre ce qu'ils appellent une privatisation déguisée. Le gouvernement burkinabé a adopté un nouveau projet de loi devant permettre à la Haute Cour de justice de reprendre le procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis pour la répression de l'insurrection d'octobre 2014. Le nouveau projet de loi prend en compte les critiques du Conseil constitutionnel qui avait déclaré certains articles contraires à la Constitution. Au Ghana, la Cour suprême a déclaré que la présence de 2 anciens détenus de Guantanamo à Accra depuis janvier 2016 était inconstitutionnelle et que leur transfèrement dans le pays autorisé par le président John Mahama aurait dû être approuvé par le Parlement. En Afrique du Sud, la Haute Cour a décidé que la présidente du Parlement, Baleka Mbete, peut organiser à bulletin secret le prochain vote de défiance contre le président Jacob Zuma. Claire Morin-Gibourg.
La décision a été rendue aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. La présidente du Parlement a les pouvoirs d'ordonner un vote à bulletin secret de la motion de défiance contre Jacob Zuma. Cette motion déposée par l'opposition doit être approuvée par la majorité simple des 400 députés. L'ANC, au pouvoir, a déjà la majorité absolue. L'opposition sud-africaine espère gagner à sa cause plusieurs députés de l'ANC s'ils ne subissent pas la pression du vote à main levée. La balle est dans le camp de la présidente du Parlement, Baleka Mbete, connue pour sa loyauté au président Zuma. Elle peut aussi choisir le vote à main levée. Pour rappel, le président Jacob Zuma, enlisé dans plusieurs scandales, a déjà survécu à plusieurs motions de défiance.
En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 10 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un poste de police dans le sud de Mogadiscio. Ce poste de police est situé dans l'artère la plus fréquentée de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel. L'attentat a été rapidement revendiqué par les islamistes Shebab qui ont l'habitude de mener de telles opérations dans Mogadiscio. L'Union européenne affirme avoir débloqué une enveloppe de 85 millions d'euros pour assister les centaines de milliers de réfugiés sud-soudanais en Ouganda. L'annonce intervient alors que s'ouvre aujourd'hui à Kampala un sommet de la solidarité pour les réfugiés. Les précisions de Jacques Aristide.
L'argent va servir à financer les opérations d'aide pendant une année. L'Ouganda accueille environ 1,3 million de réfugiés, dont environ 950 000 sud-soudanais qui ont fui la guerre dans leur pays. Pour le commissaire européen à l'aide humanitaire, Christos Stylianides, la politique d'accueil de l'Ouganda est un exemple pour toute la région et le monde. Kampala offre aux réfugiés une carte d'identité, le droit de faire du commerce et un lopin de terre pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Mais la sécheresse qui dure depuis des mois affecte les cultures et fait craindre à la famine alors que les financements internationaux promis se font toujours attendre. Le sommet de Kampala, organisé conjointement par l'ONU et le gouvernement ougandais, vise à rassembler 2 milliards de dollars sur les 8 milliards nécessaires pour faire face à cet afflux de réfugiés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui-même ancien patron de l'agence onusienne pour les réfugiés, prend part à cette réunion de 2 jours.
Les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste liée au groupe djihadiste État islamique qui planifiait selon elle des attaques visant des sites touristiques. 4 personnes ont été arrêtées jeudi dans la ville touristique d'Ezaouira, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. En Égypte, la Haute Cour a suspendu hier tous les jugements rendus sur la décision controversée de retrocéder 2 îlots à l'Arabie Saoudite, le temps de choisir la juridiction habilitée à juger cette affaire. Le gouvernement a annoncé en avril 2016 un accord pour la rétrocession à Riyad de ces 2 îlots inhabités, soulevant une vive polémique dans le pays et des manifestations contre le régime du président Abdel Fattah al-Sissi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, après l'abrogation de la loi sur l'assurance santé de Barack Obama par la Chambre des représentants le mois dernier, les sénateurs ont révélé aujourd'hui leur propre version d'un nouveau projet de loi voulu par le président Donald Trump. Le point avec Abdourahmane Dia.
Après des semaines de débats internes, les sénateurs républicains ont dévoilé leur projet de loi. Les grandes lignes restent, c'est-à-dire la diminution de l'enveloppe fédérale allouée aux États, la suppression de l'impôt aux plus riches imposé par l'administration Obama pour financer l'assurance santé. Sans surprise, les sénateurs républicains ont apporté quelques retouches au texte adopté à la Chambre des représentants le 4 mai dernier. Le chef de la minorité démocrate Chuck Schumer estime que cette version est pire que celle de la Chambre des représentants. Le Sénat devrait voter la semaine prochaine, puis cette mouture sera renvoyée à la Chambre des représentants pour réconcilier les deux projets. Le processus est loin d'être terminé et ne prendra fin que lorsque le document final sera sur la table du président pour la signature d'une nouvelle loi qui va définitivement enterrer Obamacare.
Un garçon de 10 ans a été tué au passage d'une tempête tropicale dans le sud des États-Unis qui s'accompagne de pluies torrentielles et de tornades. La tempête baptisée Cindy a frappé la côte sud-ouest de la Louisiane et l'est du Texas avec des rafales pouvant atteindre 110 km/h. En France, le président Emmanuel Macron a réuni jeudi son nouveau gouvernement remanié qui s'est attaqué à un projet de loi antiterroriste. Le texte vise à faire entrer dans le droit commun certaines dispositions relevant jusqu'à présent de l'état d'urgence. Il a évoqué quelques jours après un nouvel attentat manqué sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. un islamiste de 31 ans voulait faire de son véhicule un engin explosif, ont indiqué jeudi les autorités. En Grande-Bretagne, l'incendie de la tour Grenfell la semaine dernière à Londres a fait au moins 79 morts et qui a mis en lumière la possible dangerosité d'autres bâtiments du même type en Angleterre. Les tests effectués sur des immeubles recouverts de mêmes panneaux isolants, mis en cause dans la propagation autant pour moi du feu sur la tour Grenfell, ont révélé que quelques 600 immeubles en Angleterre pourraient en être également recouverts. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibault.
Éric Manirakula. Sur le coût de la vie pour l'édition 2016, place la capitale angolaise comme la ville la plus chère du monde pour les travailleurs expatriés. Luanda détrône donc Hong Kong. Ce résultat de l'indice Mercer indique que certaines villes africaines deviennent extrêmement chères. Par exemple, Victoria dans les Seychelles est 14e dans ce classement, N'Djamena est 16e, tandis que Kinshasa occupe la 18e place. Lagos, Libreville, Abidjan, Djibouti et Abuja se retrouvent dans les 10 premières en Afrique. L'Office du tourisme d'Afrique du Sud affiche une augmentation de près de 10% de touristes entre janvier et mars 2017. L'Europe est la principale région émettrice de touristes vers la nation arc-en-ciel. La France est le troisième pays en nombre d'arrivées de touristes en Afrique du Sud, après le Royaume-Uni et l'Allemagne. Bashni Mutaya, la directrice générale Europe du Sud de South African Tourism, estime que la nouvelle stratégie de promotion du pays fonctionne. Pretoria attend 5 millions d'arrivées supplémentaires dans les 5 prochaines années. Et au Kenya, un rapport d'évaluation annuelle du Conseil mondial du tourisme édition 2017 révèle que l'industrie touristique devrait croître de 6% par an sur les 10 prochaines années. Au même moment, cette activité va créer plus de 500 000 emplois supplémentaires. Selon David Scorsell, président de cette organisation touristique mondiale, ces chiffres montraient que le secteur du tourisme n'est pas seulement un moteur majeur de la croissance économique au Kenya, mais aussi un important secteur créateur d'emplois.
Une musique qui ne trompe pas, Yakuba Ouédraogo est dans ce studio, c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Coupe des Confédérations, le Cameroun et l'Australie se neutralisent.
Mal en point avant ce match, Camerounais et Australiens ont partagé la poire en deux, 1-1. André Frank Zambo Anguissa a ouvert le score pour les Lions juste avant la mi-temps. Mark Milligan égalise pour les Australiens à la 60e sur pénalty. Les deux formations enregistrent donc un point chacun après deux journées. À suivre, dans ce même groupe B, le choc Allemagne-Chili en tête de poule.
Ligue africaine des champions, fin de la 4e journée, c'était hier.
Dans le dernier match, l'USM Alger s'empare de la tête du groupe B grâce à sa victoire 2-0 sur le Zamalek d'Égypte. Les buts algériens sont signés Reda Belhassen à la 44e et Amir Sayoud à la 61e.
Ça bouge sur le marché des transferts, Madenda à l'Asteras Tripolis et Pepe à Lille.
Oui, l'attaquant international ivoirien Nicolas Pepe, 22 ans, a signé un contrat de 5 ans avec Lille. Il évoluait à Angers. Le milieu de terrain international gabonais Levi Madenda, lui, file à l'Asteras Tripolis en Grèce pour 3 ans. Madenda, 25 ans, a évolué la saison écoulée au Gymnastique Tarragone en deuxième division espagnole. Autre transfert, Jordi Mboula, l'hispano-congolais, quitte le Barça pour Monaco. Le club du Rocher a déboursé 3 millions d'euros pour arracher la signature de l'attaquant de 18 ans. Jordi Mboula s'est engagé jusqu'en 2022 avec les champions de France.
Équipe nationale du Maroc, un néo-lion dans la tanière.
Oui, la FIFA a accordé à l'attaquant du FC Barcelone, Mounir El Haddadi, le droit de porter les couleurs du Maroc. Il pourrait donc être convoqué lors de la prochaine sortie des Lions de l'Atlas face au Mali le 1er septembre pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Né le 1er septembre 1995 en Espagne, de parents marocains, El Haddadi a représenté l'Aurora le 5 septembre 2014.
Merci Yakuba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour. Et on commence par la RDC. La ville de Beni, dans l'est du pays, est de nouveau le théâtre d'affrontements meurtriers. Au moins 7 assaillants ont été tués. Et 2 jours plus tôt, un nouveau groupe, le Mouvement National pour la Révolution, a revendiqué une attaque contre des positions de l'armée. C'est donc quoi le nouveau groupe rebelle? Eddie Sango a joint à Beni Bité Miseke, journaliste indépendant.
Il y avait une impression d'un groupe muni d'armes à feu, armes blanches. Selon les autorités locales, même quelques officiers que nous avons abordés, ils nous disent d'un groupe lequel jusqu'à maintenant n'est pas encore bien identifié, même si on parle toujours de Maïmaï, du fait que le cadavre qu'on a trouvé sur place devant la porte de la mairie, la porte de l'office des routes, au niveau local ici, il y avait quelques corps, lesquels ont trouvé des gris-gris sur eux, des cordes sur les recettes, des petites bouteilles en plastique. On fait passer aux gens, doivent être les Maïmaï. Mais jusqu'à maintenant, aucun groupe n'a encore revendiqué cette attaque de ce matin.
2 jours plus tôt, une attaque similaire a été revendiquée par un nouveau groupe inconnu, les MNR, Mouvement National pour la Révolution. Est-ce que ce seraient les mêmes groupes qui auraient perpétré l'attaque de ce jeudi?
Il est difficile d'affirmer ou affirmer que c'est le même groupe, puisque sur place ici, tout le monde l'avait appris à travers la même voie de l'Amérique, que quelqu'un qui s'appelait John Mangaiko, il s'est présenté comme le porte-parole de ce groupe MNR. Mais comme aucun groupe jusqu'à maintenant n'a encore revendiqué cette attaque, c'est difficile d'affirmer. Sur place, les autorités parlent seulement d'un groupe Maïmaï. Demain ou le lendemain, on saura si c'est le même groupe qui a fait incursion depuis le matin de ce jeudi.
Mais c'est quoi les MNR, les Mouvements Nationaux pour la Révolution, ces nouveaux groupes?
Sur place, on ne les connaît pas. Mais par rapport aux informations à notre possession, les membres de la société civile nous ont laissé attendre qu'ils étaient au courant d'un nouveau groupe, qu'il y a des nouveaux groupes qui naissent partis par là. Ils ont même parlé de ces groupes-là. Selon la société civile, il y a une coalition d'un groupe qu'on appelait MNR, composé de Maïmaï, c'est-à-dire le combattant autochtone. Et il y a même des FDLR, des AIDF, qui sont les rebelles en provenance de l'Ouganda. Enfin, il y a les ex-membres de M23.
Comment expliquer que ce groupe qui s'est combattu il y a quelques temps coalise maintenant?
Selon le CEPADO, une association qui a même dénoncé ces nouveaux groupes, ces gens-là se sont coalisés, ils veulent renverser le pouvoir en place puisque les autorités ne veulent pas ou bien n'ont pas la foi d'organiser les élections.
Didier Miseki, journaliste à Beni.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burundi, environ 150 000 élèves des écoles secondaires ont passé le concours national édition 2017 pour suivre la formation post-fondamentale. Parmi les 80 000 qui avaient échoué l'année dernière, quelques-uns ont pu passer ce test à titre d'autodidacte. Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura, s'est rendu dans un centre de passation du concours. Reportage.
Pour entrer au centre de passation du concours national de certification et d'orientation 9e année fondamentale au lycée du lac Tanganyika, 3 policiers vous demandent d'attendre la venue du responsable du centre de passation du concours. 423 élèves sont concentrés pour terminer leurs examens qu'ils ont commencé mardi vers 12h. Quelques élèves souriants se dirigent vers le micro des VOA Afrique. Ils ne cachent pas leur joie.
Aujourd'hui, nous avons travaillé les sciences humaines et l'entrepreneuriat, tous les cours.
Cet autre élève, 15 ans, est sûr d'avoir réussi le concours avec le maximum de points.
Je m'attendais à quelque chose de difficile, mais c'est très facile.
Parmi les élèves qui ont passé ce concours, figurent aussi quelques-uns des 80 000 élèves qui avaient échoué l'année dernière au même concours. Jean-Marie Diokouayo estime qu'il peut réussir cette année.
J'ai vu que les questions posées étaient dans le cours que nous avions étudié l'année dernière. certains cours comme le français et un peu les sciences humaines m'ont causé des soucis. Je me suis préparé en suivant des cours du soir à la maison.
Pour le directeur du centre de passation du concours au lycée du lac Tanganyika, tout est bien qui finit bien, Donatien Nyiriko.
Il savait déjà qu'il y a un concours prévu au mois de juin. Voir comment ils travaillent, je vois que les élèves se sont suffisamment préparés. Premier jour, ils ont fait les mathématiques et la langue 2. Deuxième jour, ils ont fait sciences et technologies avec langue 1. Troisième jour, aujourd'hui, ils font l'entrepreneuriat et les sciences humaines.
La ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a menacé que les directeurs d'école récidivistes qui n'auront pas atteint 30% seront destitués. Pour la ministre Jean-Pierre Ndirahisha, moins de 30% sur recommandation du chef de l'État s'avère comme un indice d'incompétence pour la direction. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan sur la situation des réfugiés en Afrique. Double événement cette semaine, la journée mondiale des réfugiés le 20 juin, suivie d'un sommet en Ouganda. Le continent est le plus touché par la crise des réfugiés, alors que les projecteurs restent braqués sur les migrants qui tentent d'entrer en Europe. Comment les Africains peuvent-ils mieux montrer leur soutien aux familles déracinées? Que doit faire la communauté internationale pour soulager la pression sur les pays d'accueil en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
La 15e Assemblée générale de la Coalition mondiale contre la peine de mort s'ouvre aujourd'hui à Washington. Les délégués des 140 organisations qui composent cette coalition entendent faire le point sur la peine de mort sur le continent. Claire Morangibour a rencontré la directrice adjointe d'Ensemble contre la peine de mort, Ariane Grésion.
L'Afrique est un espoir en fait pour la communauté abolitionniste. On dit souvent entre nous que c'est le prochain continent sans peine de mort. Après l'Europe, après l'Amérique latine, tous nos espoirs sont sur l'Afrique et notamment l'Afrique subsaharienne. En 1990, il n'y avait qu'un seul État qui avait aboli la peine de mort. Maintenant, on est à peu près à une dizaine d'États qui maintiennent encore et qui sont très durs au niveau de la peine de mort et une vingtaine d'États qui ont toujours la peine de mort dans leur loi mais qui n'exécutent plus, ce qu'on appelle nous des pays en moratoire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, puisque dans ces pays il y a toujours des condamnés à mort qui croupissent dans les prisons pendant des années, des dizaines d'années et qui attendent, qui sont toujours en suspens d'une potentielle exécution.
Quels sont les pays sur lesquels vous travaillez le plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale?
Donc en Afrique centrale, en ce moment, on travaille beaucoup sur la RDC, sur le Kenya, sur le Cameroun, des pays vraiment qui montrent des signes d'ouverture sur la peine de mort, malgré des situations sociopolitiques, géopolitiques très difficiles, notamment à cause des questions terroristes. Sur l'Afrique de l'Ouest, on est très présent et on travaille avec le Burkina Faso beaucoup, qui depuis plusieurs années montre des signes d'ouverture et sur lequel on espère une abolition prochaine. Croisons les doigts.
Et quels sont les pays sur lesquels il y a le plus d'inquiétude, les pays le plus fermés?
Bien sûr, on a des pays qui sont très durs, très fermés. L'Égypte a été un exemple dont tout le monde se souvient. Après les espoirs drainés par ce qu'on a appelé les printemps arabes, les retours en arrière violents, l'utilisation de la peine de mort à des fins politiques contre les anciens dirigeants, mais aussi contre la population qui s'opposait au régime. Donc on a tous en mémoire cela. L'Égypte, le Soudan, le Tchad, l'Éthiopie, l'Ouganda aussi. On a eu beaucoup de craintes notamment sur l'utilisation de la peine de mort contre les homosexuels, des lois très dures qui étaient en cours de rétablissement. Voilà, ce sont des pays sur lesquels on est très attentif.
Ariane Grésillon, directrice adjointe d'Ensemble contre la peine de mort.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Burkina Faso, les autorités et l'OHCR conjuguent leurs efforts pour un meilleur suivi des réfugiés installés sur le territoire burkinabé. C'est ainsi qu'ils ont conjointement lancé un programme d'enrôlement biométrique de quelque 33 000 personnes pour mieux suivre leurs mouvements. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
L'opération d'enrôlement biométrique vise principalement à mettre à jour la base de données des réfugiés vivant sur le territoire burkinabé. Un travail de pointe pour un enrôlement de qualité et des résultats efficaces, fait remarquer Mawa Bamba, adjointe au représentant du HCR à Ouagadougou.
Nous sommes effectivement très heureux que nous avons pu lancer cette initiative. C'est quelque chose qui est arrivé récemment au HCR et le Burkina Faso est un des pays précurseurs de la mise en œuvre du BIMS. C'est un système, comme vous avez pu le constater, d'enregistrement biométrique. Le système se base sur la capture de l'iris et aussi des empreintes. Du coup, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire des fraudes, de pouvoir faire des doublons, de pouvoir faire des mouvements secondaires entre les pays qui accueillent les réfugiés maliens et les autres réfugiés.
L'opération va aussi permettre le renforcement de la surveillance des déplacements et autres mouvements des réfugiés, dont une initiative doublement bénéfique pour le Burkina Faso, se félicite Issa Joseph Paré, secrétaire permanent de la Commission nationale en charge des réfugiés.
Et donc cette opération est une opération conjointe qui permet au HCR et au Burkina d'avoir des données vraiment fiables sur les réfugiés. Cette opération nous rassure vraiment et nous aide à mieux gérer les réfugiés.
Les grands centres urbains de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, sans oublier les camps de réfugiés de Goudougo, Adori et Mentawa-Djibo, accueillent l'enrôlement. Pour les bénéficiaires, le soulagement est grand, lâche leur représentant, aussi Emmanuel Bokodi.
Nous sommes fiers de vivre au Burkina Faso parce que le Burkinabé a ouvert le champ d'action que les réfugiés puissent vivre sur ce territoire. Ça me fait aujourd'hui 15 ans que je vis au Burkina Faso. Et ça donne une opportunité aux réfugiés de s'intégrer. Donc l'enrôlement est une palette juridique et sociale. Nous sommes intégrés, nous vivons comme les Burkinabés.
Ce travail de suivi permet de mettre en lumière des leaders. C'est le cas de Berthe Ndiapou, une réfugiée centrafricaine.
C'est la première fois que j'ai une attestation officielle. Sinon, j'avais seulement l'acquis de droit. Ça nous a vraiment raffermi. Parce qu'avec l'appui de l'UNHCR, nous avons réussi même à monter un bon projet de Youth Initiative Fund 2017 lancé par l'UNHCR et nous sommes sur le point de la mise en œuvre.
L'enrôlement biométrique des réfugiés va durer 2 mois environ. Il va permettre aux autorités mais aussi au HCR de disposer de données fiables afin de mieux gérer les réfugiés, mais également de pouvoir suivre, superviser leurs mouvements et parer à toute menace contre la sécurité nationale. Issa Napo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission Air and Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. Air and Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. Air and Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagnot. Odius Rigues était à la console. Présentation John Lyndon, merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.